Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Le 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement, avec pour objectif de sensibiliser et de mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement. Chaque année, des millions de personnes sont déplacées en raison des catastrophes. En 2023, ces catastrophes d'ailleurs ont entraîné 26,4 millions de nouveaux déplacements internes, selon le rapport mondial 2024 de l'Observatoire des situations de déplacement interne. Selon également la Banque mondiale, en l'absence de mesures rapides et concertées en matière de climat et de développement, plus de 216 millions de personnes pourraient devenir des migrants climatiques internes d'ici 2050. Une problématique climatique que nous allons d'ailleurs évoquer avec M. Saïd Ekarouk, climatologue et géographe, par ailleurs professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Bienvenue et merci de répondre à notre invitation, M. Ekarouk.
Bienvenue à vous, monsieur, et à tous les auditeurs de Média 1.
Et donc, sans plus tarder, M. Caro, comment les politiques de durabilité peuvent-elles être mises en œuvre de manière efficace pour atténuer les impacts du changement climatique, tout en soutenant, bien sûr, la croissance économique et le bien-être social?
Alors, il faut tout d'abord commencer par le commencement, qui est une volonté politique. Hein. Mmh. Et puis la gouvernance de cette politique. Et ceci sera autour ou basé sur un savoir scientifique qui est la question de l'environnement pour que cette durabilité puisse s'installer. Alors, du côté du climat, le climat, il nous fait, à vrai dire, il nous fait chanter. Hein. C'est lui, le chef d'orchestre, il nous dirige tous. Et puis. Il interpelle les scientifiques pour se poser des questions, le pourquoi. Pourquoi il y a eu un tel événement, pourquoi l'autre, etc. Et le scientifique s'intéresse surtout à la compréhension du phénomène. Ce n'est pas toujours facile et c'est pas toujours, on n'a pas toujours le résultat escompté parce que ça demande beaucoup de temps. Et parfois, on a quelques résultats, on n'a pas, on prétend pas qu'on a tous les résultats. Parce que nous avons compris beaucoup de choses sur le système atmosphérique, mais les scientifiques, ils parlent toujours des incertitudes qui restent et qui sont très importantes. Et à partir de là, le scientifique est très vigilant vis-à-vis de l'interprétation du phénomène et des recommandations qu'il peut faire aux décideurs. Et à partir de là, donc, en se basant sur ces données scientifiques, on peut distinguer entre deux choses, hein. Entre les questions négatives du phénomène, c'est-à-dire l'impact négatif, et puis les autres questions qui sont positives. Hein. Qu'est-ce qu'on a bénéficié de ce qui se passe? Il n'y a pas que le côté négatif dans ce qui se passe. Hein. Par exemple, le réchauffement climatique, personne ne parle du côté positif du réchauffement climatique. Alors pour le Maroc, c'est un développement très fructueux de l'agriculture, personne ne parle de ça. Mais aussi une évaporation intense qui accélère le développement agricole, oui, qui accélère la maturité de la plante. Bon, je mettrai ça de côté. Hein. Il y a encore des sols au Maroc et ailleurs hein, qui sont développés grâce au réchauffement climatique en raison du déplacement de la ceinture thermique dans les montagnes. Alors, dans le dire de notre atlas, tout le dire de l'atlas, il y a beaucoup d'espaces et d'air qui étaient inexploitables auparavant. On ne pourrait pas le faire parce qu'il y avait le gel. Aujourd'hui, il ne neige plus dans ces régions et le sol devient fertile. On peut le développer. D'ailleurs, on a développé énormément de pommes, de poires, etc. et ceci est grâce au réchauffement climatique.
Et
alors, à partir de là,
oui.
la durabilité, comment la mettre dans tout ceci?
Bon,
je parle ici dans la globalité de la question.
Tout à fait.
Et les détails, on peut entrer, on peut prendre quelques cas pour entrer dans les détails. Hein.
J'entends bien.
Nous avons quelque chose qui se développe depuis longtemps dans notre vie, dans la planète entière, qui est un climat nouveau. C'est comme ça que je l'ai appelé depuis 2010, hein, parce que c'est à partir de 2010 que les choses devenaient plus claires. Hein. Et je dis un nouveau climat parce que le bilan énergétique de la planète a changé. C'est pour cela que je me permets de dire ça. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Ce nouveau climat nous met devant beaucoup de difficultés vis-à-vis de ce qui se passe parce qu'on se réfère à un climat qui n'existe plus et on essaie de résoudre des problèmes nouveaux qui nous viennent par-dessus la tête. On n'a pas de référence. Hein. Les lois de la nature n'ont pas changé, certes, mais la distribution et l'évolution des événements, tout ceci est nouveau. On ne sait pas comment l'expliquer. Hein. Nous avons compris beaucoup de choses, il reste encore beaucoup de choses à expliquer. Et pour rester dans mon statut de scientifique, de climatologue géographe, et ne pas répéter ce que répètent beaucoup des auto-experts qui naissent chaque jour sur le réchauffement climatique, le changement climatique, alors qu'ils n'ont jamais eu un cours de climatologie, ils ne savent même pas que c'est que la pression atmosphérique. Bon, je rentre pas dans les détails et qui racontent n'importe quoi. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose de complexe. Il y a la nature du sol et le bilan énergétique qui est au cœur de toute la question. Et si on comprend ça, on saura comment agir hein, dans tous les domaines. Hein. Au moins, on saura qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Hein. Et on cherchera ce qu'on pourrait faire. Hein. Et là, je peux entrer dans quelques détails, maintenant, pour le Maroc en particulier. Où une question principale est au cœur de la stabilité nationale, qui est celle de la ressource en eau. Et je parle ici de la ressource pluviale, c'est la climatologie. Hein. Ce n'est pas de l'eau encore, c'est la ressource. Hein. La gestion de l'eau en est une autre chose. Hein. À ne pas confondre la gestion de l'eau et l'économie de l'eau avec le réchauffement climatique et le climat.
J'entends bien.
Le climat, c'est la ressource. Et malheureusement, on confond tout le temps ceci. Hein. On est en train de parler de l'économie de l'eau, l'utilisation de l'eau, comme si on parlait du climat. Non, ce n'est pas ça. Le climat, c'est la ressource. Et la ressource, ça nous vient du cycle de l'eau. Hein. Et ce cycle de l'eau, il a été ébranlé depuis que la température a commencé à augmenter. Ça veut dire que, avec l'augmentation de la température due, je le répète bien et je le précise, à l'augmentation du bilan énergétique de la Terre, l'évaporation a augmenté. Hein. Donc, il y a beaucoup d'eau qui s'évapore du sol par rapport à ce qu'il était. Et ça, c'est fondamental. Et ceci va influencer l'eau disponible. Alors, quand on parle, par exemple, je vais donner un exemple très simple, au niveau de Casablanca, par exemple, la moyenne normale annuelle est celle de 400 mm. Hein. Alors 400 mm dans le climat que nous avons vécu pendant les années 80, peut-être 70, c'est pas les 400 d'aujourd'hui, hein, parce que cette efficacité pluviale n'est plus la même.
Exactement.
Avec les 400 sous une température des années 70 qui était autour, par exemple, je dirais n'importe quoi, autour de 14-15, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la même quantité d'eau avec une température beaucoup plus élevée que ça, il ne nous reste pas ce qu'il nous restait auparavant.
Et par rapport à ça,
pardon ?
Oui, je disais justement par rapport à ça, donc quand vous parlez bien évidemment de cet aspect donc du climat, on ne peut pas également parler également de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les politiques spécifiques qui peuvent être adoptées pour également promouvoir les énergies renouvelables ?
Alors, on a l'habitude, quand on parle de réchauffement climatique, on parle directement des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre ne représentent qu'un tout petit déclenchement du réchauffement. Et ce n'est pas le réchauffement total. Hein. Il y a une autre question qu'on ne prend pas en considération, c'est celle de l'utilisation du sol, hein, qui interagit avec le bilan énergétique du sol, de la terre, d'une manière générale. Et ceci, pour personne n'en parle. Hein. Quand on songe la nature du sol, quand on songe les fonctions du sol, hein, on intervient au niveau du bilan énergétique de la terre. Et c'est lui qui va ébranler la température, avec l'augmentation, avec la baisse, n'est-ce pas? Et à partir de là, si on prend en considération rien que notre territoire national, et si on voit les différents territoires qui ont été développés au niveau national, que ce soit en agriculture, que ce soit en autoroute, que ce soit en bâtiment, que ce soit en ville, etc. Mais tout ceci a un très grand effet sur le bilan énergétique. Hein. Et à partir de là, le gaz à effet de serre, qu'on parle tout le temps, tout le monde répète les gaz à effet de serre, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que le gaz à effet de serre. Il y a le bilan énergétique de la planète Terre qui est, lui, loin des gaz à effet de serre. Hein. Et les gaz à effet de serre, on n'en parle pas encore comme il se doit, parce que on va parler de la théorie des gaz à effet de serre, il faut commencer par le commencement et finir par la fin. Les gaz à effet de serre, ils minimisent aussi le rayonnement solaire, ce qu'on appelle, dans les termes de climatologie, l'assombrissement. Et donc, il perturbe le rayonnement avant de parvenir au sol. Mais il a un grand effet sur le retour de ce rayonnement qui devient un rayonnement thermique, n'est-ce pas, et qui ne part pas facilement parce que pour un bilan planétaire équilibré, il faudrait que la même quantité de soleil qui parvient doit revenir pour
justement
que le bilan soit stable. Alors il s'avère qu'avec la température qui augmente, ça veut dire que le bilan énergétique augmente. Et la grande difficulté que l'humanité a aujourd'hui, c'est on ne sait pas quand est-ce que ce bilan énergétique va se stabiliser. C'est la question la plus délicate et la plus grave. Parce qu'aujourd'hui, on essaie d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout, il faut voir ce qu'il va y avoir demain. Et le bilan énergétique est quelque chose qui contrôle le climat.
Et pour Paris,
le bilan énergétique n'est pas stable. Alors, on est dans le flou vis-à-vis du futur.
Et pour Paris, bien évidemment. Oui, je disais, et pour parer, et très rapidement, pour parer également à ce que vous venez de dire, parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'une méconnaissance du futur par rapport également au changement climatique qui n'est pas bien maîtrisé. À vous entendre également avec tous les arguments plausibles et clairs et concrets que vous avez donnés, quels sont les mécanismes et structures, selon vous, de gouvernance qui seront nécessaires pour garantir que ces politiques, bien évidemment, de mise en œuvre et de prévention par rapport à ce réchauffement climatique, pour parler de durabilité, soient mises en place et qu'elles soient efficaces très rapidement?
Alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau international sur la stabilité de la température planétaire. Ça, c'est à travers les négociations, à travers les modèles économiques, à travers les... Et ça, c'est ça les négociations sur le climat. Il peut se faire en communauté. Hein. Alors, et ça ne marche pas tout le temps parce qu'il y a beaucoup d'intérêts derrière. Et puis, les grands patrons du monde, ils font chanter le monde comme ils veulent. Ils décident ce qu'ils veulent. Hein. Et le reste suit. Il est obligé de suivre. Hein. Alors, par contre, sur le plan national, la question est complètement différente. Hein. Sur le plan national, on a une liberté totale de faire des politiques nationales ce qu'on veut. Alors à partir de là, ça c'est ce qu'on appelle l'adaptation, l'adaptation et la résilience. Alors ceci doit passer tout d'abord par une compréhension détaillée de la question. Et ça, on n'a pas toujours ce niveau. Hein. Alors au niveau national, nous avons la météorologie qui fait beaucoup de choses, beaucoup de travail. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de travail de géographie, beaucoup de travail de terrain, beaucoup de travail d'observation. Et les modèles n'expliquent pas tout, ils ne donnent pas tout. Nous avons des modèles planétaires, mais nous avons des modèles aussi régionaux qui sont développés et utilisés par les Marocains. Mais les modèles sont clairs sur l'évolution de la température, mais ils sont aveugles devant l'évolution du bilan de l'eau et l'interaction géographique entre l'atmosphère, l'océan et le continent. Et à l'intérieur du continent, entre le dur et entre la végétation et entre le bâti, etc. Et ça, aucun modèle ne peut le faire d'ailleurs, hein, parce qu'on ignore ces interactions. Et la nature nous informe souvent sur cette ignorance. Quand je donnerai un exemple, quand la pluie, l'eau a été de retour depuis 2006 jusqu'à 2018 au niveau de l'hémisphère nord, aucun modèle n'avait prévu ça. Hein. Et les inondations qui ont eu lieu n'ont été prévues aussi par aucun modèle. Et la raison de ce retour de l'eau, c'est une interaction inconnue qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pourrait pas connaître avant, de l'océan avec la température, avec le bilan énergétique, et l'océan avec l'atmosphère aussi. Et tout ceci a ébranlé une circulation atmosphérique qui est devenue ondulante, n'est-ce pas, à suprématie ondulante, ça s'appelle la circulation méridienne, et c'est cette circulation qui nous a amené le froid et la chaleur, l'eau et la sécheresse, les deux à la fois. Bon, maintenant, on est dans une autre phase, qui est une phase de l'évolution thermique, hein, qui nous a donné cette sécheresse que nous vivons jusqu'à aujourd'hui.
Tout à fait.
Ça, c'est une autre étape.
Merci.
Troisième, si vous voulez, troisième période de l'évolution du réchauffement climatique. La température a augmenté encore. Et avec l'augmentation, il nous donne des résultats. Quelques-uns, on les connaît, d'autres, on ne les connaît pas.
Des résultats qu'on connaît, certes, quelques-uns et d'autres qu'on ne connaît pas. Monsieur Saïd Karouk, merci encore. Je rappelle que donc, c'était une des parties par rapport à vos interventions concernant aujourd'hui la durabilité et le rapport climat. Nous ne manquerons pas, chers amis, auditeurs également, suiveurs de votre émission Durabilité, de revenir dans une autre partie avec monsieur Saïd Karouk, qui, je précise également, est climatologue, professeur également en géographie à l'université Hassan II. Merci encore, professeur.
C'est moi qui vous remercie et bon courage.
Également, au plaisir. Et on se donne rendez-vous, chers amis, toujours dans la durabilité de votre confiance, dans un prochain numéro sur la durabilité. Au plaisir.